Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Francis Laloupeau, journaliste, enseignant en géopolitique et grand spécialiste de l'Afrique. Et c'est justement d'Afrique dont on va parler aujourd'hui. Beaucoup d'Occidentaux et de Français sont étonnés des réactions africaines par rapport au conflit russo-ukrainien, et notamment qu'il n'y ait pas unanimité dans la condamnation et surtout dans la prise de sanctions à l'égard de la Russie. Bref, il y a une sorte de pourquoi ne sont-ils pas d'accord avec nous? Et donc, peut-être Francis, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'attitude globale du continent africain par rapport au conflit russo-ukrainien?
Merci Pascal Boniface. Le tableau est plutôt contrasté entre les pays qui ont voté pour la résolution en mars dernier, parce qu'il faut bien dire quand même qu'il y a eu 28 pays qui ont voté pour cette résolution.
Résolution qui condamnait l'agression.
Qui condamnait l'agression de la Russie contre l'Ukraine, et 17 pays qui se sont abstenus. Je pense que ce sont ces abstentions qui ont surtout retenu l'attention des observateurs, notamment de ce côté-ci du monde. En réalité, ce tableau contrasté montre bien la diversité de la situation politique en Afrique, parce que l'Union africaine, qui a officiellement une position de neutralité, se trouve en fait, se positionne à un point d'équilibre entre des pays ouvertement alliés de la Russie, des pays qui sont dans une relation, je dirais, hybride entre la Russie et les pays occidentaux, et puis il y a des pays qui ont décidé de ne pas choisir, et même ceux qui se sont portés absents pendant le vote de la résolution. Mais en réalité, c'est cette diversité qui caractérise l'Afrique aujourd'hui. Parce que quand on observe la composition de l'Union africaine, où il n'y a pas de critères de convergence pour appartenir à l'organisation, mais il suffit d'être un pays africain pour y appartenir à cette organisation, l'Union africaine, en fait, c'est un espace où se fabriquent en permanence des compromis. Des compromis entre des pays qui apportent au sein de cette organisation une diversité de cultures politiques, d'alliance, de diplomatie, et c'est cette synthèse en fait que représente l'Union africaine. Alors quand on prend en compte cette diversité, il ne faut pas s'étonner du résultat du vote auquel on a assisté en mars dernier à l'Assemblée générale de l'ONU, parce que c'est cela l'Afrique d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'analyse du vote montre plutôt, je dirais, à la fois une sorte d'embarras de certains pays africains qui apporte un soutien. Il y en a très peu, au fond, qui ont voté contre. L'Érythrée est un pays emblématique de ce point de vue-là. Il y a ceux qui se sont abstenus. Alors, cette abstention est intéressante parce que, dans cette abstention, il y a un mélange d'embarras, de volonté de non-alignement, et aussi, je dirais, d'un message qui est envoyé à ce qu'on appelle l'Occident. C'est-à-dire, nous sommes dans une forme d'autodétermination par rapport à un conflit qui se passe loin de chez nous et auquel nous ne voulons pas apporter ni de caution, ni une adhésion ou un positionnement, disons, déterminé.
Cette volonté d'envoyer un message au monde occidental l'a emporté sur le principe sacro-saint d'intégrité territoriale et de respect des frontières.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on observe, le postulat sur lequel se fonde l'Union africaine, qui représente tous ces pays africains, il y a deux principes qui fondent l'Union africaine, c'est la lutte contre l'impérialisme et l'autodétermination des peuples. Et c'est vrai que la neutralité aujourd'hui qui caractérise l'Union africaine par rapport au conflit en Ukraine est une forme de contradiction historique, puisque nous assistons à une guerre impérialiste. Alors comment soutenir effectivement la Russie, ou alors comment
ne pas la condamner.
En tout cas, comment adopter indéfiniment une forme de neutralité quand on est par ailleurs, un continent qui a fondé sa raison d'être moderne sur la lutte contre tous les impérialismes. Alors, la position des pays qui se sont cantonnés dans cette neutralité aujourd'hui est une position extrêmement difficile. C'est une sorte de ligne de crête sur laquelle avancent ces pays, entre un soutien, disons, politique à la Russie, sans pour autant cautionner ou avaliser les motifs de la guerre en Ukraine.
Alors en tous les cas, aucun pays africain n'a adopté de sanctions contre la Russie.
Politiquement, économiquement, la plupart des pays africains n'ont pas la capacité politique, économique nécessaire pour énoncer des sanctions à l'encontre de la Russie. Il peut y avoir des sanctions symboliques, par exemple le fait, par exemple, de demander aux citoyens de ne pas se rendre en Russie, le fait d'interdire peut-être de prendre des dispositions en matière de circulation des personnes, des biens entre la Russie et ces pays-là. Mais ces pays n'ont pas la capacité de le faire aujourd'hui. Au contraire, quand on prend le cas d'un pays comme le Nigeria, qui potentiellement a la capacité de le faire. Le Nigeria a été un des pays qui ont voté pour la résolution, qui ont voté contre la guerre en Ukraine, très très clairement. Alors, c'est intéressant parce que le Nigeria est un géant d'Afrique. C'est l'une des deux puissances africaines avec l'Afrique du Sud. Et la position du Nigeria est une position emblématique de ce point de vue-là, parce que c'est une position qui est en contrepoint de la neutralité qu'affiche l'Union africaine. Donc aujourd'hui, en fait, il faut analyser la position africaine à travers essentiellement ses positionnements politiques et non pas par une capacité éventuelle ou potentielle de marquer ou alors de décréter des sanctions contre la Russie.
Alors l'Afrique du Sud s'est également distinguée dans cette affaire.
Fortement. Alors l'Afrique du Sud est un cas absolument intéressant parce que là nous avons avec l'Afrique du Sud la somme de toutes les raisons en fait qui déterminent le résultat du vote dont nous parlons. D'abord, l'Afrique du Sud est amenée aujourd'hui à gérer justement cette difficulté, cet équilibre très particulier entre un soutien clairement affirmé à la Russie, mais soutien politique, qui tient à un certain nombre de raisons, voire des raisons historiques, dont on peut parler si vous le souhaitez. Et par ailleurs, la difficulté, enfin, l'embarras en tout cas, a avalisé le motif de cette guerre. Vous verrez d'ailleurs que l'État sud-africain, qui est dans une position de neutralité vis-à-vis de ce conflit, n'évoque jamais le motif du conflit en tant que tel pour expliquer sa position. On convoque souvent des raisons historiques, très fortement le soutien apporté à l'ANC pendant sa lutte contre l'apartheid, puisque l'ANC avait été fortement soutenue par l'Union soviétique. Et puis, il y a une sorte de continuum comme ça que l'Afrique du Sud essaye d'assumer par rapport à ce soutien.
L'Afrique du Sud voit dans la Russie la continuation de l'URSS. L'Ukraine aussi faisait partie de l'URSS au moment de la lutte contre l'apartheid.
Oui, mais l'Ukraine n'est jamais devenue un grand partenaire de la Russie par ailleurs. Parce que et d'ailleurs, ce qui vaut pour l'Afrique du Sud peut valoir aussi pour la plupart des pays africains qui adoptent aujourd'hui cette neutralité, qui ont voté, qui se sont abstenus pendant le vote de cette résolution en mars dernier. C'est-à-dire que parmi ces pays-là, vous avez aussi des pays qui ont aussi connu cette alliance avec l'Union soviétique autrefois dans les années 70. Et des pays où ces souvenirs sont plus ou moins marqués. Bon, on peut penser à des pays comme le Congo-Brazzaville, par exemple. On peut penser à beaucoup moins pour le Bénin. Mais le Mali, par exemple, le Mali évoque aujourd'hui ses liens d'autrefois avec l'Union soviétique. Alors, c'est une contradiction historique aussi intéressante parce que si on parle de continuum entre cette alliance du passé et la Russie d'aujourd'hui, la Russie d'aujourd'hui n'est pas du tout la Russie de l'Union soviétique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique également. La Russie d'aujourd'hui n'est pas une Russie communiste. Il faut dire que les alliances autrefois se faisaient aussi sur le socle de l'idéologie socialiste. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc ce continuum est davantage, je dirais, relève plus de l'argutie ou de la justification plutôt que de la réalité politique de certaine manière. Mais pour revenir à l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a toujours, enfin l'ANC, qui est le parti dominant en Afrique du Sud et qui gouverne le pays depuis la fin de l'apartheid, l'ANC a toujours cultivé une sorte de fidélité absolue à ses partenaires, à ses soutiens du passé, à l'époque de la guerre, enfin de la lutte contre l'apartheid. Ce fut le cas sous Nelson Mandela, quand Nelson Mandela, souvenez-vous, avait tenu à aller, avec des moyens très compliqués, rendre visite à Muammar Kadhafi, au moment où Muammar Kadhafi subissait l'embargo, au moment où la Libye était sous embargo. Nelson Mandela avait bravé l'embargo pour aller saluer Muammar Kadhafi en raison de ce soutien que Mouammar Kadhafi avait apporté à l'ANC pendant sa lutte. Et aujourd'hui encore, on voit en Afrique du Sud, l'État sud-africain, l'ANC, qui évoque souvent cette alliance du passé. Mais il y a surtout le combattant pour la liberté économique en Afrique du Sud. C'est un mouvement radical de gauche qui est un peu, qui est issu de l'ANC, qui est un peu la mauvaise conscience de l'ANC, parce que c'est un mouvement qui se détermine fortement socialiste, voire marxiste et communiste, qui prône très aujourd'hui ouvertement son alliance avec la Russie, et qui marque, comment dire, qui produit des coups de boutoir contre l'ANC, qui est considéré un peu comme un mouvement ayant renoncé à ses idéaux du passé, à ses idéaux socialistes. L'ANC qui s'est finalement qui s'est rallié au dogme libéral, avec une économie libérale, ouvertement libérale, qui a pour premier partenaire stratégique quand même les États-Unis, tout en cultivant cette nostalgie ou ce souvenir en fait de l'alliance de la Russie soviétique, une Russie soviétique en fait qui n'existe pas.
Alors l'Afrique du Sud est membre des BRICS, on a l'impression quand même que elle pourrait jouer un rôle plus important et qu'on pensait que dans ce club, elle jouerait un rôle plus important de fait de son ADN, de son passé, de son statut, de son prestige. Et est-ce que on peut considérer que c'est un peu le partenaire dormant des BRICS?
Non, parce que en adhérant aux BRICS en 2011, l'Afrique du Sud se retrouvait avec des pays comme l'Inde, comme la Russie. Et déjà, vous vous souvenez que dès 2012-2013, les BRICS avaient envisagé de ne plus se cantonner seulement dans la position d'un club économique, mais d'élaborer une sorte d'alternative à la fois politique et diplomatique à l'autre monde, c'est-à-dire le monde occidental. Donc on retrouve aujourd'hui au fond, au sein des BRICS, cette même position en fait de démarcation par rapport à ce qu'on appelle le monde occidental, cette espèce de troisième voie en quelque sorte ou de l'autre voie en fait projetée et qui serait donc une alternative d'abord au monde occidental, à la démocratie libérale telle qu'on l'entend, mais force est de constater que il est très difficile de trouver une synthèse harmonieuse entre d'un côté la Russie néo-dictatoriale de Vladimir Poutine, l'Inde qui est dans un positionnement un peu hybride, première démocratie en même temps avec quelques sympathies avec les autocraties, et l'Afrique du Sud qui est une démocratie affirmée, mais qui essaye de gérer un équilibre très délicat, subtil, qui peut être intéressant en temps de paix d'ailleurs, entre son alliance avec son grand partenaire stratégique les États-Unis, et de l'autre côté, la Russie qui reste un partenaire historique, mais qui, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, dans le contexte de cette guerre en Ukraine, cette Russie qui demande fortement aujourd'hui à l'Afrique du Sud d'aller jusqu'au bout de son soutien et de renforcer son alliance économique avec la Russie en se démarquant des États-Unis, ce qui serait très difficile puisque il faut dire qu'il y a 600 entreprises américaines qui opèrent en Afrique du Sud, et que, jusqu'à preuve du contraire, les États-Unis demeurent encore un partenaire stratégique et économique fort de l'Afrique du Sud. On peut en dire autant d'ailleurs pour la Chine qui est aujourd'hui le premier partenaire, enfin, l'Afrique du Sud est le premier partenaire économique de la Chine sur le continent africain, et la Chine aussi essaie de trouver aussi un point d'équilibre entre ses intérêts économiques et un soutien, disons, un soutien conditionné et relatif.
Mais l'Afrique du Sud parvient à avoir des liens très forts stratégiques et économiques avec les États-Unis et d'avoir une diplomatie qui, sur de nombreux points, se distingue de celle de Washington.
Sur de nombreux points, déjà avec
notamment sur le point le plus important aujourd'hui, voilà, qui est la guerre en Ukraine, et on peut dire aussi par rapport à l'attitude de la Chine, où l'Afrique du Sud n'entend pas choisir entre Washington et Pékin.
Alors, lors de la dernière rencontre entre Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, et Joe Biden, c'était intéressant parce qu'en fait, ils étaient d'accord sur beaucoup de points, notamment l'évocation de l'Afrique du Sud, beau pays. Joe Biden a rappelé son implication personnelle dans la lutte contre l'apartheid. Et puis voilà, donc il y a, je dirais, ce chapitre très harmonieux des relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Ils ont rappelé également une coopération très forte dans la lutte contre la pandémie, contre le Covid, il y a quelques mois. Et puis, il y a ce qu'on a appelé, ce que les diplomates américains ont appelé l'éléphant qui est dans la pièce. Et l'éléphant dans la pièce, c'est la Russie. Et la Russie reste effectivement un point de difficulté aujourd'hui dans le dialogue diplomatique entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Mais c'est un point de discorde que l'Afrique du Sud assume pleinement, parce que l'Afrique du Sud, l'ANC en tout cas, est habituée, mais c'est peut-être, je dirais, une vieille, le reliquat d'une vieille culture marxiste. L'ANC a été habituée à gérer les contradictions historiques, les contradictions objectives, je dirais. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Afrique du Sud ne bougera pas. La difficulté de l'Afrique du Sud, c'est plutôt d'essayer de trouver une harmonie entre sa position diplomatique vis-à-vis de cette guerre notamment, vis-à-vis d'ailleurs de ses partenaires extérieurs, et ses partenaires africains. Parce que vis-à-vis de ses partenaires africains, il y a eu à un moment donné un rapprochement qui s'est opéré dans les années 2000 et 2010. Il y a eu la conquête, si je puis dire, de l'Union africaine par Madame Nkosazana Zuma, ex-compagne de Jacob Zuma, qui a donc assumé un mandat à la tête de l'Union africaine. L'Afrique du Sud pensait marquer de ses positions la vie et l'histoire de l'Union africaine, au nom d'ailleurs de la lutte contre l'impérialisme, disait-on. Depuis, évidemment, l'Afrique du Sud a un peu révisé à la baisse ses ambitions continentales et s'est retournée, repliée vers elle-même et vers les BRICS par ailleurs et vers ses partenaires extérieurs. Mais je voulais juste signaler que en Afrique du Sud aujourd'hui, en dehors de cette neutralité affichée par l'Afrique du Sud vis-à-vis du conflit en Ukraine, il y a quand même dans le pays une forte imprégnation de la propagande russe. La stratégie d'influence russe opère fortement en Afrique du Sud, qui est devenue, un pont, une sorte de tremplin, une sorte de nœud de situation à partir duquel la Russie diffuse sa propagande et sa stratégie d'influence, notamment vers les pays comme le Ghana, comme le Kenya ou encore comme le Nigeria. Et fait intéressant, c'est la position de la fille de l'ancien président Jacob Zuma, qui était très active, d'ailleurs, hyper active d'ailleurs, dans la propagande russe, et qui s'appuie sur la fondation de son père pour diffuser aujourd'hui, je dirais, une campagne de communication pro Vladimir Poutine qui est qualifié dans le communiqué de cette fondation comme un homme de paix et un grand homme face, je cite, aux brutes occidentales.
Alors, est-ce que l'Afrique du Sud s'est repliée un peu sur elle-même, elle a ses difficultés économiques et du coup, elle n'est pas naturellement le leader du continent africain comme elle espérait l'être au début du siècle?
Elle espérait l'être, oui. Elle espérait l'être à double titre d'ailleurs, d'un point de vue économique, et aussi d'un point de vue politique. Mais ce qui s'est produit, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, nous avons parlé d'ailleurs de puissance immodeste. Parce que l'Afrique du Sud a, d'une certaine manière, enfin, cette Afrique du Sud post-apartheid, a découvert l'autre Afrique, l'Afrique qu'elle ne connaissait pas. Donc il a fallu en fait faire un chemin vers ces autres Afriques dont elle était coupée pendant l'apartheid en réalité. Alors, double mouvement à la fois donc économique. Alors sur le plan économique, il est certain, l'Afrique du Sud a opéré une offensive économique tout à fait puissante et efficace vers les autres pays d'Afrique. Sur le plan diplomatique, l'Afrique du Sud est restée un peu une puissance anachronique, en tout cas un partenaire anachronique de bon nombre de pays africains, parce que l'Afrique du Sud, de l'ANC, imprégnée des postulats de sa lutte contre l'apartheid, à une époque évidemment où l'ANC était d'obédience aux socialistes, a voulu en fait ne voir toutes les questions africaines, y compris le conflit africain, qu'à travers le prisme de la lutte contre l'impérialisme, et surtout de la lutte contre l'Occident. Évidemment, la situation était beaucoup plus compliquée que cela. Alors, l'Afrique du Sud a essayé d'une certaine façon, en guillemets, de vendre, je dirais, ce postulat systématiquement, ou de le plaquer En fait, sur toutes les situations en Afrique, alors il y a eu des errements qu'on a connus, par exemple l'implication de l'Afrique du Sud dans le conflit en Côte d'Ivoire, dans le conflit en Centrafrique, avec justement à chaque fois, je dirais, une interprétation toute personnelle, et surtout une interprétation qu'elle puisait dans son propre souvenir, dans le souvenir de sa lutte, mais oubliant en fait que justement on était en Afrique dans une diversité de situations, mais qu'il fallait donc prendre toutes les situations africaines dans leur très grande complexité. Alors l'Afrique du Sud a opéré cette forme de diplomatie un peu personnelle jusqu'en 2010-2011 justement, où elle a, dans une offensive diplomatique très très soutenue, décidé donc de conquérir la présidence de l'Union africaine pour justement insuffler à l'Union africaine cette philosophie, en tout cas cette philosophie, disons, cette équation qui est l'équation, je dirais, permanente, qui est le socle de l'ANC, la lutte contre l'impérialisme occidental. Évidemment, une fois à la tête de la présidence, à la tête de l'Union africaine, la présidente, Madame Zuma, Nkosazana Zuma, qui ont compris que la gestion des affaires africaines était aussi complexe qu'ailleurs, et qu'on ne pouvait pas simplement projeter, je dirais, sur un continent entier, ce qui relevait en fait de l'histoire spécifique de l'Afrique du Sud.
Vous avez parlé des relations de l'Afrique du Sud avec l'Inde, la Russie. Quid de la Chine ? Est-ce que l'Afrique du Sud est un partenaire important pour la Chine ?
L'Afrique du Sud est la première partenaire de la Chine sur le continent. En termes de volume d'échanges, c'est effectivement la première partenaire de la Chine, elle le demeure. Et l'autre partenaire étant le Nigeria, évidemment, mais il y a tout le bassin, je dirais, de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, pardon, qui participe aussi, je dirais, de cette dynamique très particulière dont bénéficie la Chine dans cette région du continent. Donc, effectivement, la Chine reste un partenaire important, et surtout, vu d'Afrique, l'Afrique du Sud est la première partenaire. Et tous les autres viennent ensuite, bien sûr.
Mais est-ce que ça se traduit par des coopérations concrètes sur le plan stratégique, ou c'est juste un partenariat assez souple ?
Partenariat économique, portant essentiellement, comme souvent c'est le cas avec la Chine, sur les domaines infrastructurels, beaucoup de questions d'infrastructures. Alors, vous savez que la Chine est devenue aussi progressivement, imperceptiblement, le premier fournisseur d'armes du continent africain, aujourd'hui devançant la Russie en cela. Donc de ce point de vue, l'Afrique du Sud fait partie du package, en quelque sorte, de ce commerce discret que la Chine a progressivement fait évoluer au fil des années, parce qu'on voit souvent la Chine, évidemment, comme, disons, un partenaire commercial soft, mais on a oublié, effectivement, de constater fortement que la Chine, aujourd'hui, effectivement, le premier fournisseur d'armement, de matériel d'armement et d'instructeurs pour le continent africain.
Pour revenir à la Russie, au conflit ukrainien, il y a à la fois un isolement de plus en plus grand de la Russie par rapport aux Occidentaux. Ce n'est pas le cas par rapport au continent africain. On peut même dire que ces jours-ci, la Russie a fait progresser son influence, notamment avec les événements du Burkina Faso.
Là où l'Occident, en guillemets, parce que, comme vous savez, Pascal, je me demande toujours où commence l'Occident et où il se termine. Mais bon, nous allons rester dans l'assertion générique. Là où l'Occident faiblit, la Russie s'engouffre et s'installe. On peut prendre deux cas, évidemment, qui sont des cas très observés ces jours-ci, depuis quelque temps d'ailleurs. On prend le cas de la République centrafricaine. La Russie s'est engouffrée dans la brèche centrafricaine après le départ de l'opération française Sangaris. La Russie a offert ses services à la Centrafrique. La Centrafrique a accueilli les mercenaires de la société Wagner, avec avec d'autant plus d'enthousiasme que la Centrafrique n'avait plus de partenaire fort sur lequel s'appuyer. La France ayant été traditionnellement le premier partenaire en matière de sécurité de ce pays. Aujourd'hui, Wagner est installé en Afrique du Sud. Et Wagner bénéficie de toutes les avantages que lui accorde avec une très grande légèreté, mais en même temps avec abondance, l'État centrafricain. Ça a été également le cas au Mali. Au Mali, la Russie a senti, évidemment, venir les difficultés qui s'annonçaient, par rapport à des difficultés liées à la longévité de la présence militaire dans cette dans ce pays, militaire française. Et comme c'est un cas observé, c'est un cas aujourd'hui, ce sont des situations éprouvées. Quand une présence militaire s'installe dans le temps, elle est ressentie à un moment donné par la population comme étant une...
Et au Burkina, alors ?
Occupante. La Russie s'est engouffrée dans cette brèche. Au Burkina, il y a eu des approches. Il y a eu, je dirais, quelques approches à partir du Mali, d'ailleurs. C'est une forme de prolongement de ce qui se produit, de ce qui s'est produit au Mali, hein. Le Burkina Faso étant dans la même situation sécuritaire que le Mali. Donc, le Burkina est une proie intéressante pour la propagande de Wagner, donc du Kremlin, dès lors que le Burkina est confronté à la même équation sécuritaire que le Mali, avec, je dirais, une sorte de chaos politique et chaos sécuritaire qui fait le lit, finalement, de la propagande, de la stratégie d'influence russe. Et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Et c'est une propagande qui fonctionne d'ailleurs beaucoup sur la jeunesse, mais pas que sur la jeunesse, parce que cette propagande sert aussi des agendas locaux qui ne sont pas forcément des agendas qui tenant compte des intérêts de la population.
Merci Francis Lalupo pour ce grand tour d'horizon de la réaction des pays africains par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec ce focus sur l'Afrique du Sud.
Merci Pascal Bonifaz.